nouvelle édition de l'économie en question et nous parlons d'économie mondiale, comme à Davos en Suisse cette semaine, au 46e forum, rendez-vous désormais incontournable de l'économie. Le thème officiel proposait cette année la 4e révolution industrielle. Mais autour, en marge ou en lien avec l'irruption des nouvelles technologies et surtout avec la rapidité fulgurante de leur extension, bien d'autres sujets ont été abordés par les participants, chefs d'État ou de gouvernement, dirigeants d'entreprise ou experts. Menaces de récession mondiale, recul de la Chine, chute des cours du pétrole, fragilité des pays émergents, Russie, Amérique latine, Afrique, défi aussi de l'intégration des migrants en Europe, et nous en retenons un de plus, tout aussi dépendant de tous les autres et éventuellement dépendant de conditions possibles plus favorables pour la croissance, l'économie mondiale à Davos, pour nous, si on parlait d'inégalité. Et je suis en compagnie ce matin de Élise Huillery, professeure à Sciences Po, chercheuse associée au Poverty Action Lab, c'est le laboratoire d'action contre la pauvreté du MIT aux États-Unis. François Bourguignon, qui devrait nous rejoindre d'une seconde à l'autre, chaire émérite de Paris School of Economics et l'École d'économie de Paris, et Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Je les salue tous les trois, c'est bien l'économie en question. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30, bienvenue à tous. Deux mots sur Davos, dont je pense qu'on commence à savoir de quoi il s'agit tout de même. Une fondation à but non lucratif, à l'origine donc de ce forum économique mondial dès 1971, et c'était financé, c'est toujours par les milliers de grandes entreprises qui payent d'ailleurs assez cher pour en devenir membres. Au départ, c'était plutôt européen, et puis le projet est devenu forum économique mondial à partir de 87 avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse, pour vous donner une idée, qui sont aujourd'hui les plus représentés au forum de Davos. Mais il y a également des représentants de la société civile, des ONG, on va en parler, des universitaires, des responsables religieux et des personnalités chaque année du monde de la culture qui sont invités. Forum de Davos qui n'a pas une très bonne réputation, perçue peut-être comme la réunion des puissants et des riches réunis pour défendre un modèle qui les avantage. Ce n'est peut-être pas si simple, mais on peut en discuter pour commencer. On peut quand même noter que Facebook, Google, on va pourtant parler de la 4e révolution industrielle, c'est ainsi qu'elle est nommée par le forum. On peut noter donc que ces deux grandes entreprises ont cessé d'y aller chaque année et que d'ailleurs Apple n'est même pas adhérent à l'organisation. Rien n'est donc aussi simple. La fondation qui publie également régulièrement des rapports sur de très nombreux thèmes et qui a, soyons justes, plusieurs fois affiché sa préoccupation face à la montée des inégalités qu'elle considère comme un risque très réel pour la stabilité mondiale. Tout ceci vous paraît une introduction correcte à Davos, Élise Huillery?
Ça me paraît une introduction correcte à Davos, bien sûr. En fait, le débat sur les inégalités qui apparaît à Davos est très intéressant. Mais il faut rappeler, peut-être en introduction, je voudrais rappeler ce que je rappelle souvent à mes élèves, que en fait les inégalités se mesurent de façon extrêmement différente et que selon le point de vue qu'on adopte, le critère qu'on adopte, la mesure qu'on adopte, on peut avoir des conclusions qui paraissent complètement contradictoires. Là par exemple, Oxfam dans le cadre de ce forum a fait un rapport qui met en exergue la montée des inégalités. Il donne le chiffre que 1% des plus riches gagnent autant que, enfin possèdent autant que 99% les 99% restants.
Des chiffres très très frappants, bien entendu, mais à discuter tout de même.
À discuter, oui. Justement, c'est là-dessus que je voulais revenir. On peut mesurer les inégalités soit par le revenu, soit par la consommation des ménages, soit par le patrimoine, soit par aussi des mesures de santé, par exemple d'espérance de vie. On peut mesurer aussi les inégalités par rapport à la représentation politique, et selon qu'on utilise tel ou tel critère, on peut avoir des conclusions complètement différentes. Par exemple, si je reviens sur le chiffre d'Oxfam, 1% des plus riches possèdent autant que 99% du reste du monde. Ça se base sur le patrimoine net, et par exemple, si on prend une mesure de revenu et si on considère des indicateurs comme l'indice de Gini, qui mesure en fait l'écart entre une distribution complètement égalitaire et la distribution qu'on obtient dans un pays, à ce moment moment-là, on a un discours complètement différent. Par exemple, les Gini, si on regarde les États-Unis, si on regarde les pays européens, et la plupart même de tous les pays du monde, à part quelques-uns, sont extrêmement plats. Donc la mesure des inégalités, l'exercice est extrêmement difficile. Pour pouvoir donner une conclusion globale sur est-ce que les inégalités augmentent ou pas, il faut toujours se baser sur quel indicateur on utilise, et on va avoir des conclusions extrêmement différentes selon les indicateurs qu'on utilise. Donc ça, c'est la première chose que je voulais rappeler.
Et on peut même ajouter que justement, la Banque mondiale, avec cet outil, l'indice de Gini, qui est très utilisé dans toutes les économies du monde, montre plutôt une stagnation des inégalités de revenus. Attention, on n'est pas en train de dire, attention, que les inégalités ne sont pas un sujet, bien au contraire. Et voici François Bourguignon pour nous le dire d'ailleurs, qui entre dans le studio. Xavier Timbaud.
Oui, ce que vient de dire Élisée Lurie est extrêmement important. Quand on parle des inégalités, il faut faire très attention de quoi on parle, quelles sont les conclusions qu'on en tire et quelle est la base d'informations qu'on utilise. Donc, la première chose, c'est qu'on parle souvent d'inégalités en termes monétaires. Et donc, on a du mal à inclure tout ce qui n'est pas monétaire dans la dimension des inégalités. Par exemple, c'est pas tout à fait pareil d'avoir un faible revenu quand on est un paysan qui a accès à de la terre et qui peut faire l'autoproduction de sa nourriture, qui peut vivre dans un village avec une forme de solidarité à l'intérieur du village, et d'être un ouvrier dans une ville urbanisée dans lequel il n'y a pas cette possibilité d'autoproduction et dans lequel il y a beaucoup moins de réseaux de solidarité. Et donc à ce moment-là, le même revenu monétaire ne signifie pas du tout le même niveau de vie. Alors ensuite, il y a une autre chose qui est extrêmement importante à dire sur les inégalités, c'est la qualité de l'information et la vitesse à laquelle on acquiert de l'information sur les inégalités, et en particulier celle sur laquelle est basé le rapport Oxfam, et tout le travail qui a été fait à la Banque mondiale sur les inégalités avec François Bourguignon, Branko Milanovic...
Ancien directeur de la Banque mondiale, je le précise, François Bourguignon,
oui, qui a joué, je vais le dire à sa place, un rôle très important dans la mesure des inégalités, avec en particulier un soin extrême apporté aux sources d'information et à la qualité de ces sources d'information. Dans le rapport Oxfam, en gros, le rapport Oxfam est basé sur des extrapolations qui sont faites à partir de données qui sont bâties par quelques banques, Crédit Suisse, avec l'aide de quelques universitaires, mais qui sont des extrapolations. On utilise des éléments parcellaires sur un certain nombre de pays, on utilise des éléments assez anciens, et puis on les extrapole sur la base de l'évolution des prix de l'immobilier, des marchés boursiers, d'informations qu'on a sur les plus riches qui sont données par exemple le magazine Forbes. De l'autre côté, ce qu'a fait la Banque mondiale, c'est essayer d'avoir une information très précise, qui n'est malheureusement disponible aujourd'hui que jusqu'en 2008, et qui donne une vision assez différente. C'est-à-dire que d'un côté, on a des inégalités qui semblent exploser, ce que nous dit Oxfam, mais de l'autre côté, ce que nous dit la Banque mondiale, c'est que les inégalités ont tendance à plutôt diminuer, elles sont à un haut niveau, mais elles diminuent.
Et la pauvreté absolue diminue également, il faut le dire, les objectifs du millénaire, les fameux...
Et le monde change assez radicalement avec l'apparition d'une grande classe moyenne, qui n'est pas du tout la classe moyenne de nos pays développés, mais c'est une grande classe moyenne. Et donc, il faut arriver à mélanger ces sources d'informations pour avoir une image qui sera forcément complexe sur ce que sont les inégalités, qui ne peut pas être tout blanc, tout noir.
Alors François Bourguignon, effectivement ancien chef économiste de la Banque mondiale, mais aussi spécialiste de ces questions des inégalités, vous avez publié, c'était je crois l'an dernier, un livre assez qui avait fait beaucoup parler sur ce thème, avec d'autres, bien sûr, Joseph Stiglitz, notamment prix Nobel d'économie en 2001, vous avez été parmi ceux qui ont effectivement alerté sur la dangerosité en fait du fossé qui est en train de s'élargir, je dis qui est en train, on est toujours au présent, entre les riches et les pauvres, et qui est pour vous quand même une manifestation, ou en tout cas un effet direct de la globalisation de l'économie.
Oui,
c'est incontestable.
C'est incontestable. C'est un peu compliqué de faire un diagnostic sur est-ce que la brèche est en train d'augmenter, de diminuer. Comme vient de le dire Xavier Timbaud, il y a des problèmes de mesure. Selon certaines mesures, elle augmenterait. Selon certaines autres mesures, elle diminuerait. Mais quoi qu'il arrive, le niveau des inégalités dans le monde est absolument vertigineux. Qui n'a rien à voir avec ce que l'on peut observer dans des communautés nationales, même parmi celles qui sont reconnues pour être les plus inégalitaires au monde, que ce soit l'Afrique du Sud ou que ce soit le Brésil. Donc ce problème-là, il existe. Ce problème existe et en plus, je crois que la conjoncture économique dans laquelle nous nous trouvons laisse penser que l'espèce d'embellie qu'on a cru voir ou qu'on a vu ou qu'on a observé au cours des 15 dernières années va peut-être arriver à sa fin. Et il est évident que dans l'évolution des inégalités mondiales de ces dernières années, non seulement les grands pays comme la Chine et l'Inde ont joué un rôle considérable pour les diminuer, mais ce qu'il y a de plus remarquable quand on regarde les 15 dernières années, c'est que les pays les plus pauvres, en particulier l'Afrique subsaharienne, a fait des progrès considérables. Et il me semble qu'aujourd'hui, le grand danger, c'est que ce progrès, ce développement plus rapide en Afrique, se ralentisse. Du fait de la chute des prix des matières premières, du fait que durant cette embellie des matières premières, peu d'économies africaines ont vraiment investi dans des activités qui peuvent leur permettre de maintenir leur croissance. Je crois que dans une certaine mesure, ils ont surtout consacré leurs revenus supplémentaires à consommation, à de l'investissement à des fins purement locales et domestiques, sans véritablement prendre en compte le futur. Donc, je crois que là, on a un danger devant nous qui est considérable. Il est possible que les inégalités qui s'étaient plutôt réduites, même éventuellement stabilisées, se remettent à augmenter.
Élise Wilry, laboratoire de la pauvreté, je l'ai dit, qui travaille beaucoup dans les pays africains précisément. Vous faites la même analyse?
Dans les pays africains, on fait l'analyse qu'effectivement les taux de pauvreté se réduisent dans les dernières années, alors que c'était encore le dernier continent avec des taux de pauvreté qui étaient restés extrêmement importants jusqu'à très très récemment. Là, on sent qu'il y a quand même plus qu'un frémissement. Je veux dire, il y a quand même une diminution assez importante grâce à une croissance très très élevée. On commence à voir des diminutions sur l'extrême pauvreté. On a encore du mal à parler d'une classe moyenne. On n'est pas encore arrivé, sauf cas exceptionnel, à des niveaux de revenus qui permettent de parler de classe moyenne. Ce qui est intéressant au-delà des grandes tendances entre pays ou à l'intérieur des pays, où effectivement les débats méthodologiques sont encore très très présents et finalement réduisent un petit peu la possibilité de tirer une conclusion qui soit unanime, c'est la variété des situations des pays. On voit des pays qui sont, par exemple, le Brésil. François Bourguignon avec le Brésil. Quand j'étais élève, le Brésil était vraiment l'emblème du pays le plus inégalitaire. Et en fait, le Gini du Brésil s'est réduit de manière considérable. C'est le pays qui a peut-être le plus réduit ses inégalités
la
internes.
La politique de Lula, on s'en souvient notamment, en direction de la faim. Oui.
Alors, en France FIM. Ou en Suède, dans des pays comme ça, c'est assez stable. Dans des pays comme la Chine, les inégalités au contraire augmente énormément. Et en fait, tout ça amène à une analyse qui rend très très compliqué des grandes réponses du cible. Est-ce que la mondialisation est la cause d'une augmentation des inégalités ou pas? Parce qu'en fait, on voit que des pays qui s'ouvrent aux échanges peuvent avoir des évolutions très différentes. Certains dans lesquels les inégalités baissent, d'autres dans lesquels les inégalités augmentent. Donc en fait, ça ramène plutôt à l'importance des institutions au-delà de la mondialisation des échanges, le rôle des institutions dans la combinaison, dans l'évolution des inégalités.
Qu'elles soient suffisamment solides. Mais solides au plan national aussi, puisque François Bourguignon l'a souligné, oui.
Au niveau national, c'est-à-dire qu'on voit bien que ce qui va faire la différence entre un pays dans lequel les inégalités évoluent positivement ou dans lequel les inégalités évoluent négativement, c'est davantage de la gouvernance d'entreprise, le poids des syndicats, la fiscalité, c'est ces institutions-là qui finalement influent énormément l'augmentation ou la diminution des inégalités.
Xavier Timbaud, puis on en viendra peut-être aux effets actuels de cette révolution technologique en cours et à venir. Oui, pardon, François Bourguignon, vous voulez faire une remarque sur ce qu'on vient de dire? Je vous en prie.
Non, je voulais simplement dire que quand on parle d'inégalité et développement, il faut aussi ne pas oublier que les inégalités elles-mêmes ont un rôle sur le processus de développement.
Évidemment.
La causalité va dans les deux directions. Je crois un des progrès qu'on a fait sur, là encore, les 10-15 dernières années, c'est de réaliser que il était important de réduire certaines inégalités pour favoriser le processus de développement dans beaucoup de pays. Et c'est vrai, je crois, pour les pays développés comme pour les pays en développement.
Bien sûr, Xavier Tabo.
Oui, je pense que d'ailleurs, dans cette veine-là, il y a une inégalité qui a des conséquences très fortes. Enfin, l'inégalité de revenus a des conséquences en termes d'inégalité d'éducation. Et donc un caractère qui se transmet aux générations, donc un caractère héréditaire, ce qui la rend parfois franchement injuste et insupportable. Je pense que dans la discussion qu'on vient d'avoir, il y a quand même, pour caricaturer un peu, mais je pense que c'est important de bien comprendre qu'il y a des en quelque sorte des dimensions contradictoires dans l'évolution des inégalités. Il y a une dimension sortie de la pauvreté qui, dans lequel la globalisation a joué un rôle assez positif, parce que des grands pays ont pu se développer et proposer à leur population de, produire, de sortir de la pauvreté. L'Inde, la Chine, un certain nombre de pays d'Asie, peut-être l'Afrique qui s'engage dans cette voie-là. Et puis, il y a à l'autre côté de la redistribution, de la distribution des revenus, l'évolution des plus hauts revenus. Et c'est un autre effet de la globalisation, c'est-à-dire c'est le fait que les marchés s'élargissent et qui font que les gens les plus talentueux, les plus éduqués, ceux qui avaient des rentes déjà auparavant dans l'économie, peuvent les surdévelopper, que ce soit dans la finance, dans le spectacle, dans le sport, avec une explosion des inégalités de ce côté-là. Et puis la globalisation a aussi un effet sur la fiscalité et donc permet aussi d'accumuler avec moins de taxation ou même de produire avec moins de taxation et accroît aussi les inégalités. Et on est dans un schéma où il y a ces deux forces divergentes, à la fois sortie de la pauvreté et en même temps aussi explosion des plus hauts revenus, avec au milieu...
Où on veut.
Entre les deux. Dans ce qu'on appelle la classe moyenne dans les pays développés, le sentiment d'être en double déclin, déclin par rapport à ses plus riches et déclin par rapport à une fraction de la population qui était pauvre et qui les rattrape d'une certaine façon. Donc,
Un sentiment très difficile. Ce qui est intéressant,
un dernier point. On parle beaucoup ici implicitement d'inégalité de revenus ou de patrimoine, d'inégalité monétaire. Mais il y a des tas de dimensions des inégalités, comme par exemple les inégalités entre les hommes et les femmes, qui ne s'approchent pas par la question des revenus, et qui, elles, sont aussi des injustices majeures qui concernent des masses de population phénoménales, puisque, par exemple, l'inégalité homme-femme concerne la moitié de la population
Et puis pèse beaucoup sur l'avancée de l'économie. Je voudrais qu'on arrive jusqu'à cette révolution technologique. On parle de quatrième révolution, mais il me semble que c'est la troisième qui avait été mise en avant par Rifkin, enfin peu importe comment on veut l'appeler.
Il y a
encore une dimension encore plus forte. On a fait un pas de plus, et très vite.
Un pas de plus avec l'apparition de machines intelligentes.
Dont il a évidemment été largement question à Davos. Donc c'est la prochaine vague d'innovation technologique, celle des objets. Oui, vous faites allusion à la robotique, les objets connectés. Il paraît qu'on voit des robots se promener dans les couloirs de Davos. La nanotechnologie, les bio, on ne revient pas sur tous ces détails. Je cite Barack Obama, qui n'est pas venu, mais qui a envoyé quand même Joe Biden. Et je crois aussi le ministre des Affaires étrangères. Non, il est venu, Kerry, je ne sais plus. Oui, je crois qu'il est venu également, le secrétaire d'État John Kerry. Barack Obama, c'est un changement qui peut élargir les opportunités ou, dit-il, accroître les inégalités. Et il ajoute, les entreprises peuvent s'installer n'importe où, affronter donc une concurrence plus dure. Mais en conséquence, les travailleurs ont de moins en moins de leviers pour une amélioration. Et de plus en plus de richesses et de revenus vont se concentrer tout en haut. On ne va pas quitter ces fameux 99,1%, François Bourguignon.
C'est un grand débat en fait dans la science économique depuis quelques siècles. Les économistes classiques abordaient déjà ce problème de l'innovation. Est-ce que l'innovation est un facteur qui va contre l'emploi et donc quelque part contre le revenu d'un certain nombre de gens? Vulgate économique consisterait à dire le progrès technique fait disparaître un certain nombre d'emplois, mais il en crée d'autres. Et donc, l'un dans l'autre, finalement, on s'y retrouve. Il me semble qu'il y a deux problèmes avec cette vision des choses.
Là, on parle de 5 millions d'emplois perdus sur 5 ans. Ça veut dire que les nouvelles technologies en détruiraient 7 millions et en créeraient 2. Mais enfin bon, ce sont des chiffres, après on en fait ce qu'on veut.
Et très honnêtement, je ne sais absolument pas comment...
C'est le rapport qui a été présenté à Davos.
Mais ils n'ont pas beaucoup de sens. C'est des chiffres qui viennent, en l'occurrence, de DRH et de dirigeants qui ont été interrogés sur ces questions-là et qui ont donné leur avis.
C'est un rapport auprès des entreprises, en effet.
C'est la somme d'avis informés, mais ça n'a pas plus de valeur que ça.
Juste pour faire peur, alors. François Bourguignon.
Mais bon, il me semble, pour revenir au point que j'étais en train de faire, les choses ne sont pas aussi simples que ça. D'une part, le problème de la transformation d'emplois en autres, dans des emplois différents, ça prend du temps. Les historiens économistes se montrent que quand les métiers à vapeur ont remplacé les métiers dans la région de Lyon, on a mis à peu près 70 ans pour retrouver une prospérité économique. Donc ça montre qu'on a sacrifié deux générations avec ça. Donc ce problème-là, il faut vraiment le regarder. Et le deuxième problème, c'est est-ce que effectivement la technologie à laquelle on est confronté aujourd'hui est capable de créer d'autres emplois? Et quelle est la nature de ces autres emplois? Je crois qu'il y a, de façon évidente, et on le constate sur les dernières années, il y a un problème avec la substitution d'un travail relativement qualifié parce que ces machines ou cette technologie justement permet de substituer des tâches répétitives, mais qui demande une certaine qualification intellectuelle, pas nécessairement dans l'industrie, mais dans les services. Et il n'est pas du tout évident qu'il y ait le remplacement. L'idée qu'il faut des gens pour créer ces machines disparaît complètement, parce que justement, les machines créent les machines.
Oui.
Et là, je crois qu'on est confronté à un vrai problème. Vous parliez de Rifkin tout à l'heure. Rifkin a écrit un livre qui devait s'appeler « La disparition de l'emploi » ou quelque chose comme ça, il y a quelques années. Et c'était exactement ce genre de préoccupation. Je crois qu'on n'a pas de réponse pour l'instant, mais il me semble que c'est véritablement un danger qu'il faut envisager.
On dit aussi, alors bah évidemment les jeunes loups venus de la Silicon Valley, en tout cas les jeunes créateurs de start-up, vous disent, c'est un peu la thèse qu'ils ont retenue dans les débats à Davos, bien sûr il va y avoir des destructions d'emplois, notamment beaucoup moins de salariés, mais beaucoup plus d'entrepreneurs à qui on va laisser leur chance. Et ceci dans toutes les régions du monde. Adoptez-vous cet optimisme, Élise Lurie.
J'allais y venir justement, parce qu'une articulation très importante entre l'innovation,
en quelque sorte.
Exactement, entre l'innovation et les inégalités, c'est l'articulation autour de l'accès à l'entrepreneuriat, l'accès au financement pour des entrepreneurs, donc l'accès à du crédit pour monter son activité, et l'accès à l'éducation, au capital humain. Et donc la question de savoir si l'innovation technologique va réduire ou augmenter les inégalités, elle est essentiellement liée à la façon dont l'éducation peut être partagée dans une société. En France, par exemple, on est dans une société où l'éducation est très inégalitaire, alors qu'on n'a pas un système privé. C'est pas sur le plan financier qu'elle est inégalitaire, c'est sur le plan de l'accès aux diplômes, de l'accès aux grandes écoles, etc., où on est dans une société où effectivement la mobilité sociale est assez faible en termes de reproduction des inégalités scolaires. Et puis, on est aussi, on n'est pas le seul, un pays où il est assez difficile d'obtenir un crédit. Quand on est un jeune peu diplômé qui a une super idée de business à créer, mais qui a pas forcément les garanties, l'entourage familial pour lui procurer les garanties de crédit nécessaires. Donc il faut débloquer l'éducation, débloquer l'accès au financement pour que l'innovation puisse être réductrice en termes d'inégalité.
Les derniers mots sur ce thème, Xavier Timbaud, la création d'entreprise plutôt que salariat, l'extension du salariat, puis François Bourguignon très vite l'année
prendre beaucoup de recul sur cette question. Le maître mot ici, c'est disruption. C'est-à-dire qu'on a un ensemble d'innovations technologiques, de nouvelles pratiques qui vont permettre de remettre en cause les institutions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Ça va par la substitution des machines à des hommes, mais ça va plus loin que ça. Quand vous regardez Uber, c'est pas une machine qu'on substitue à un homme. C'est la notion même d'entreprise et de relation de subordination entre un employeur et son salarié qui est remise en cause, avec la création d'un marché concurrentiel dans lequel l'employeur peut faire appel à des chauffeurs à la volée et à la demande, et en les mettant en concurrence, et donc en abaissant progressivement la rémunération. On a connu ce genre d'événement. La révolution industrielle à la fin du 18e siècle, au début du 19e, a été une forme de disruption qui a remis en cause un ordre social établi et qui a obligé à la mise en œuvre d'un état social. La globalisation qu'on a connue après la Deuxième Guerre mondiale et surtout après les années 70 a aussi été une disruption sur les modèles sociaux qui a obligé à des adaptations. On est à la veille, ou on est en plein dans un nouveau système de ce type-là. Et la question qui se pose...
Mais va-t-on sacrifier deux générations comme
alors,
l'a été
la
le
question
cas.
Qui se pose, c'est que si on ne veut pas sacrifier deux générations, il va falloir que les institutions répondent à ce nouveau contexte.
Et très vite.
En prolongeant en quelque sorte les pratiques anciennes et en les modernisant dans ce monde qui apparaît. Et ça, c'est d'une difficulté phénoménale parce que ça demande une agilité dans ces institutions qui sont généralement pas la caractéristique propre de ces institutions. Tout ça dans un contexte de coordination internationale. Ça devient aussi très compliqué. Et c'est ça la difficulté à laquelle il ne faut pas être pessimiste.
François Bourguignon.
Mais il ne faut pas être optimiste en se disant tout va bien se passer.
Est-ce qu'on a besoin de temps? C'est toujours un peu le problème du long terme, court terme. François Bourguignon.
Oui, non, c'est dommage, on n'est pas, on n'a pas vraiment de contradiction entre nous. Donc,
ça fait rien, vous nous apportez bien les éléments importants.
Non, je voudrais surtout insister là-dessus, sur le fait que dans cette révolution qu'on a abordée, dans laquelle on se trouve, il y a aussi cette évolution des modes de travail. la notion d'emploi salarié plein temps, etc. L'exemple que vient de donner Guettin-Beau sur Uber, etc. Ça peut éventuellement voler en éclats. On peut, quand on parle des entrepreneurs, d'une économie d'entrepreneurs, ça peut être une économie de travailleurs indépendants qui ont des contrats qui leur arrivent par Internet, répondent à ce contrat, gagnent. Et donc, éventuellement, la notion de travail risque de se modifier de façon assez considérable. Et encore une fois, si c'est le cas, oui, bah, il faut peut-être d'ores et déjà prendre des mesures qui nous permettront de contenir les problèmes sociaux qui vont être créés de cette façon-là. Mais la difficulté, c'est que on ne sait pas très très bien où on va.
Eh bien, on revoit votre livre, notamment, dont je n'ai plus le titre en tête, Monter des inégalités, comment s'appelait-il ?
La mondialisation des inégalités.
Voilà, de François Bourguignon, très récent. Beaucoup d'autres livres, José Stiglitz, bien entendu. Atkinson aussi, qui vient de sortir son
livre en français. Oui.
Voilà, que vous connaissez bien, qui a également sorti un livre à ce sujet. On mettra tout ça sur notre site. Juste les deux dernières minutes qui nous restent, une nouvelle séquence. Je vous ai demandé à chacun, venez avec un chiffre. Le vôtre, Élise Ullery.
Alors, le mien, je dis le chiffre tout seul d'abord.
On commence par le chiffre.
10%.
Pourquoi ?
Donc 10%, ça fait écho à notre discussion, mais c'est totalement le hasard. C'est la proportion de travailleurs indépendants en France. Pour le mettre en perspective, en Europe, la moyenne est de 15%. Donc on manque de travailleurs indépendants si tant est que la moyenne soit la cible à atteindre. Et dans les pays anglo-saxons, États-Unis ou Grande-Bretagne, c'est plutôt autour de 20%.
Donc on a de la marge. François Bourguignon, vous êtes venu avec quel chiffre ?
Moi, c'est 100 millions. 100 milliards.
Pardon. Ah, vous voyez comme c'est compliqué. 100 millions ou 100 milliards ?
C'est des problèmes d'échelle. Et le 100 milliards, c'est le fait que si on voulait éliminer la pauvreté dans le monde, avec les critères qu'on utilise à l'heure actuelle et que je discute fortement, le coût, si on était capable de cibler parfaitement les pauvres dans le monde et de leur donner exactement ce qui leur manque pour arriver au seuil retenu internationalement de 1,90$ par personne et par jour, il nous faudrait aujourd'hui moins de 100 milliards. À l'aune des montants qu'on entend citer tous les jours, c'est un montant ridicule.
Donnez-nous un exemple. Qu'est-ce qui a fait 100 milliards ? Allez, si quelqu'un peut le trouver, qu'on ait des comparaisons. La raison ma petite séquence sur les chiffres, c'est que souvent, on ne les met pas en rapport avec d'autres.
100 milliards.
Il reste vague.
100 milliards, c'est pas loin du déficit public de la France, par exemple.
Merci. C'est à peu près le genre de réponse que je cherchais.
C'est 5% du produit intérieur brut français.
Voilà, donc mais on pourrait se permettre de répondre dans le monde entier.
La France représente toute une partie du monde développé et du monde entier.
Xavier Timbeau.
Moi, mon chiffre, c'est 400. Alors, c'est pas un chiffre très frais parce qu'il date de mars 2015. C'est la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre. Donc, c'est le seuil qui a été atteint, un chiffre rond, en mars 2015. Il augmente de 2,25 par an depuis quelques années. Ça se traduit par le fait que, par exemple, l'année 2015 a été une des plus chaudes jamais enregistrées.
La plus chaude, la plus enregistrée.
Ouais. Avec un degré de plus que par rapport à l'ère pré-industrielle. Les engagements des pays à la COP21 devraient conduire à une augmentation de la température d'ici la fin du siècle de 3 degrés. Donc le degré qu'on a nous donne un petit avant-goût de ce qui va se passer si on continue à accumuler du carbone dans l'atmosphère et que le climat continue de se dérégler.
À suivre, c'était Xavier Timbeau, François Bourguignon et Élise Ullery.
C'est aussi ce qu'il faudrait
100 milliards, pardon.
Mettre dans le fonds de transition environnementale. Pour que les pays émergents, en tout cas c'est ce à quoi se sont engagés les pays développés.
Voilà, encore un 100 milliards qui, Élise, très vite.
Je réagis par rapport au chiffre de François Bourguignon et par rapport à un thème qu'on n'a pas abordé, mais que j'aurais bien aimé aborder, c'est l'idée de redistribution par la fiscalité ou par l'impôt, de réduire les inégalités en prenant aux riches et en donnant aux pauvres. Et je pense qu'il faut changer un tout petit peu de vision, c'est-à-dire que les inégalités, il faut les attaquer avant impôt, à la racine. Il ne faut pas juste se contenter de prendre après coup, quoi.
Merci à tous les trois. On retrouvera aussi notre partenaire Les Échos avec un article que Marie Bellan nous signale dans l'édition du week-end, les indemnités prud'homales. On verra que les chiffres sont pas mal là non plus et donnent une idée de ce qui peut être proposé par la ministre du Travail très prochainement. Merci à notre petite équipe, Laurent Genepin, préparation, documentation, Ghislaine David, réalisation. Et on se retrouve nous samedi prochain. Venez nous visiter sur notre site. C'est l'heure des informations avec Anne Fauquemberg.